Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour une nouvelle émission en ce mardi 21 mai, un mardi de plus, pas un mardi de trop. Pour m'accompagner aujourd'hui, l'équipe habituelle, alors Nora n'est pas encore à la régie, elle a encore un petit peu de retard, mais c'est Hugo qui fait le remplacement. Comment vas-tu Hugo ?
Ça va très bien.
En forme ?
Je règle mon micro en même temps. Ça va très bien, et vous-même, monsieur Mario ?
Écoute, je me porte à merveille, on a une belle semaine de sport en général.
Je suis d'accord.
Voilà, on a une belle semaine de boxe et de MMA la semaine dernière. Là, on a début de Roland Garros, finale de Ligue des Champions.
C'est vrai.
Il y a le Grand Prix, il y a le Grand Prix de Monaco.
Aucune idée.
Il y a le Grand Prix de Monaco aussi. Donc voilà, une belle semaine de sport de manière générale. Donc moi qui suis passionné de sport, ça me plaît. Voilà.
Et bah tant mieux.
Lounis, comment vas-tu ?
Ça va très bien. Effectivement, on a été gâtés en termes de boxe et de MMA. Et là, il y a. En MMA, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent et c'est vrai, j'avais pas fait le calcul avec effectivement le tennis et le football, mais c'est vrai qu'on a une belle saison en ce moment.
Exact. Vous suivez un peu d'autres sports que le MMA ou la boxe ?
J'ai pas trop le temps.
Pas le temps ?
Ouais,
Hugo.
Non. Si, les échecs.
Regarde-moi bien. regarde bien mon visage.
Hugo, alors je fais la description du coup, mais Hugo est circonspect.
Non, vraiment pas. En fait, c'est le MMA et puis la boxe de temps en temps, mais...
C'est déjà pas mal.
Bah ouais.
Bref, pour ceux qui nous découvrent, le concept de l'émission est simple. C'est une bande de potes qui parlent de MMA pendant une heure, avec des débriefs, des actus, des quiz ou des chroniques en tout genre. Alors installez-vous confortablement, car on est mardi, et le mardi, c'est Bagarre Club. Au programme aujourd'hui, on va revenir sur les actus, notamment des Français, avec les combats d'Oumar Sy et de Cédric Doumbé, qui ont été de belles réussites. Ensuite, on aura le droit au gros quiz du Bagarre Club, avec la revanche immédiate de la revanche de la semaine dernière entre Lounis et Hugo pour le titre Undisputed.
Ouais, donc, je vais Lounis, prendre ma revanche.
Exactement, Lounis détenteur de la ceinture. Et enfin, on s'éloignera un petit peu du MMA pour parler donc de boxe anglaise, car on a quand même eu un gros combat le week-end dernier, et je pense qu'il faut en toucher.
Historique
de nos...
même, je pense. On peut
historique,
dire.
Oui.
On en reparlera, mais oui, historique,
ah oui,
je
tout
pense.
À fait.
C'est le mot.
Voilà pour le programme, donc sans plus attendre, on commence avec les actus.
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Les actus de cette semaine sont donc marquées par deux combats de Français. On va commencer par le petit jeune, par Oumar Sy, 28 ans, qui a fait ses débuts à l'UFC dans la nuit de samedi à dimanche. Et des débuts tonitruants, puisqu'il s'est imposé dès le round 1 par une soumission face au Britannique Tuco Tokos. Hugo, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette performance de notre Français ?
Bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est vraiment une performance... Je cherche l'adjectif correct, mais...
Net.
Ouais,
domination,
c'est ça,
net.
Sans bavure. C'est...
Tout à fait.
En fait, c'est vraiment... Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de... Bah, c'était même, je ne vais pas dire ennuyeux, parce que c'est toujours plaisant de voir une domination comme ça. Mais bon.
Il n'y a pas eu de suspense.
Voilà, il n'y a pas eu de suspense dans le sens où son adversaire, donc Tuca. Comment tu as dit Tuco Tokos ?
Tuco Tokos.
Tuco Tokos, pardon. Tuco Tokos n'a pas du tout pu s'exprimer. Donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul échange en striking. Hein.
Très peu. Quelques frappes, mais vraiment rien en fait.
À partir du moment où ils sont partis en grappling, où Oumar Sy a fait une amenée au sol.
Ouais, très vite, il l'a amené au sol et ensuite il l'a manœuvré tout le reste du round afin de trouver du coup
il
une ouverture.
Il l'a malaxé, disons-le.
Non mais voilà, avant de trouver une ouverture vers la fin du premier round pour caler un étranglement arrière, performance vraiment dominante.
Ouais.
On va quand même noter que Tuco Tokos, son adversaire, avait pris le combat en short notice. Parce que quand on avait fait le débrief la semaine dernière, on n'avait pas trop de retour sur qui allait être l'adversaire d'Oumar Sy. Étant donné que celui qui était prévu de base avait dû annuler au dernier moment.
Et c'était son premier combat UFC aussi.
Aussi,
Notons-le.
donc voilà. Disons, c'est des petits
C'est des
circonstances
détails.
atténuantes, on va dire, pour son adversaire. Mais bon, malgré tout, il faut saluer la performance d'Oumar Sy. Ça permet de se mettre en confiance pour des débuts. On sait que c'est jamais facile, un petit peu, avec toute la pression qu'il peut y avoir. On va parler, on l'a dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur le combat en lui-même. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de la suite pour Oumar Sy, sachant qu'il combat en lourd léger. C'est une catégorie qui est vraiment très ouverte. Il n'y a pas grand monde. Voilà, c'est pas une catégorie très bouchée. Il n'y a pas grand monde. Est-ce que l'ONIS, ça peut être l'occasion rêvée, entre guillemets, voilà, des débuts Tony Truant comme ça, de très vite monter dans les classements?
Oui, bien sûr. Comme ça a été le cas pour Cyril Gane. Donc Cyril Gane était entré dans la catégorie poids lourd et c'était pas une catégorie qui était avec énormément de combattants ou justement une catégorie où il y avait on va dire une sorte de palier de verre où on va dire où il y avait c'était pas une catégorie qui était extrêmement relevée disons-le et Cyril Gane justement a usé de ceci pour justement se propulser dans les classements. Je pense qu'on peut avoir justement une situation assez similaire
jusqu'à ce que Tom Aspinall
jusqu'à ce que Tom mais je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez similaire avec Oumar Sy. Alors il est trop tôt pour imaginer ça, mais bon, qui sait, contre Ankalaev.
Mais moi surtout, ce qu'on n'a pas pu voir là dans ce combat-là, et ce qui m'inquiète un peu, c'est le striking d'Oumar Sy.
Il a un bon striking. Il a 80% de. En fait, sur les 10 combats qu'il a eu, donc pour aucune défaite, il en a gagné 8 par finition.
Je te crois. Hein.
Donc 4 par KO ou KO technique.
Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un autre niveau.
Ah oui,
il était avant, il était au bras.
Il a fait KSW et Ares un petit peu. Il était un peu à cheval sur les deux.
Voilà. Donc c'est une performance extrêmement impressionnante qu'il a fait, mais j'aurais bien aimé voir quelques échanges en striking pour voir où il se situe par rapport au niveau UFC, justement.
Et
même si, du coup, son adversaire, c'était...
C'était Short Notice, voilà. Donc voilà.
Donc, ça aurait été, ça aurait pas répondu...
Son adversaire a eu énormément de temps pour se préparer.
Ah non.
On a hâte, du coup, de le revoir un petit peu à l'œuf, peut-être avec l'UFC Paris, qui arrive d'ici quelques mois.
Oui, ce serait une bonne occasion.
Donc, oui, je pense que même l'UFC ou Marcy aurait tout intérêt à aller combattre sur l'UFC, à l'UFC Paris, pour gagner un petit peu de popularité en France.
Ouais.
On sait que combattre face à son public, tout de suite, ça crée un attachement avec les fans. Je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à dire sur Oumar Sy. On enchaîne avec l'autre français, Cédric Doumbé, qui était extrêmement attendu. Voilà, on en parlait après sa défaite face à Baki suite à une épine dans le pied. On en attendait beaucoup de Cédric Doumbé face à un adversaire qui avait quand même un petit peu plus de bouteilles que les adversaires précédents de Cédric Doumbé.
Ouais.
Victoire avec la manière, TKO round 1. Ouais. On n'en demandait pas mieux.
Bon, du Doumbé, hein, clairement, un contre, le crochet qui connecte, Jalil Willis qui est sonné, qui met un genou à terre, et donc Cédric Doumbé qui termine le combat avec les frappes. On n'a pas appris grand-chose, mais c'est une performance, on va dire, pour le remettre un petit peu, pour que Cédric Doumbé puisse un petit peu remonter la pente, parce qu'il a perdu quand même une certaine crédibilité après sa dernière, son dernier combat. En tout cas, on sait que Cédric Doumbé, au-delà de l'athlète, c'est aussi une personnalité médiatique très connue, maintenant très connue en France. Donc c'est vrai que son dernier combat a vraiment fait tache. Là, ça lui a permis justement de se remettre un petit peu
Redorer son blason.
Ouais, c'est ça, de redorer son blason avec un finish, même si...
Il a rappelé qu'il était.
Oui, tout à fait.
Comment ?
Il a rappelé qu'il était.
Oui, c'est ça, absolument.
Il a remis l'église au milieu du village, comme j'aime bien le dire.
Cette expression sortie de nulle part, que personne n'a jamais prononcée à part lui.
Ah si, si.
Ah, tu vois. Bref, Cédric Doumbé, très belle performance. Moi, surtout, ce qui m'a vraiment plu dans son combat, c'est la facilité avec laquelle il a défendu les tentatives d'amener au sol. Vraiment, que ce soit en sprawl, que ce soit en esquive. Jalil Willis a beaucoup tenté en début de combat. Peut-être même un peu trop, je trouvais qu'il forçait peut-être un peu trop là-dessus, mais bon, pourquoi pas.
Il savait que c'était la faiblesse principale de Cédric.
Oui, et il savait que je pense qu'il pouvait pas trop rivaliser en striking.
Ouais, je pense.
Donc là-dessus, je trouve qu'il a fait un très très bon travail, Cédric Doumbé. Donc j'ai vu pas mal de réactions qui disaient comme quoi oui, mais son adversaire, on a assez blâmé Cédric Doumbé pour affronter des adversaires qui n'étaient pas au niveau. Là, un mec qui était à 16 victoires pour 5 défaites. On va pas recommencer avec les mêmes erreurs. Ça restait un adversaire qui avait de l'expérience, c'est ça. Donc belle performance pour Cédric Doumbé qui se relance bien. la suite pour Cédric Doumbé. On a eu le face-à-face une fois qu'on a fini dans la cage avec Anthony Pettis.
Bah, plus que le face-à-face même, il y a eu un accord verbal entre les deux hommes de se combattre l'un l'autre après. Quoi.
Mais non, c'est toujours le problème avec les accords verbaux. Est-ce qu'ils vont trouver des...
Les accords verbaux.
Accords verbaux, pardon. Désolé, fin de journée. Les accords verbaux, voilà, est-ce qu'ils vont trouver les bons termes de contrat, tout ça. Dans tous les cas, qui est Anthony Pettis, Lounis? Tu peux nous faire un petit récap?
Oui, bien sûr. C'est l'ancien champion. C'est un ancien champion poids léger de l'UFC. Ça, les gens l'oublient pas parce que, mais enfin, l'oublient un peu. Mais ça a été un champion de l'UFC au début des années 2010. Il est connu pour son style de combat très, on va dire, peu orthodoxe, très flamboyant et assez spectaculaire. Il a notamment, alors, je vous encourage à aller regarder la vidéo, mais il a notamment asséné un jour un KO par en courant sur le mur de
grillage.
Voilà, en courant, en fait, en sautant, en courant plus ou moins sur le grillage de l'octogone et en envoyant, on va dire, un high kick à son adversaire. Ça a l'air complètement lunaire dit comme ça, mais ça l'est, mais il l'a vraiment fait.
C'est le seul qui a vraiment fait ça dans les...
Il n'y a pas eu un Johnny Walker ou un Michel Pereira qui ont fait ça, non? Ça me dit un truc. Mais bon,
peut-être.
Dans tous les cas, c'est rare.
C'est un coup qui est extrêmement difficile à placer, extrêmement télégraphé, et en plus de ça, pour mettre un KO avec ça, c'est terrible.
Donc Anthony Pettis, c'est quand même un très très grand nom du MMA. Je pense même qu'il a influencé toute une génération de combattants. Moi, quand je regarde des combattants, alors à une époque comme Tony Ferguson ou comme même comme Jiří Prochazka, je pense que Anthony Pettis a laissé quand même un héritage vraiment assez fort à l'UFC, mais aussi dans le MMA de manière générale, en raison justement de son style de combat qui dénote quoi. Il a une garde, mais il la met pas vraiment en valeur. Il met une pression constante. Il a des coups de coude, j'en ai parlé, mais des assauts qui sont très difficiles à anticiper.
Donc voilà, là, tu as fait une présentation un petit peu de la carrière et des forces d'Anthony Pettis quand il était notamment à son meilleur niveau. Oui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'Anthony Pettis, à l'heure actuelle, représente un véritable challenge pour Cédric Doumbé?
Non.
Je vais vous rappeler deux, trois informations. Il a 37 ans. Il n'a pas combattu en MMA depuis août 2022. Et depuis son départ de l'UFC, c'est 3 victoires en 8 combats. Donc voilà, est-ce que... Hugo, est-ce que, à ton avis, limite Anthony Pettis par rapport à un Jalil Willis qui était plutôt sur dans la force de l'âge et un peu au top de sa carrière, pourquoi pas? Est-ce que ça représente vraiment un challenge supérieur?
Je pense pas.
Bah
on va rester mesuré quand même pour pas cracher sur Anthony Pettis, mais 37 ans quand même. Enfin,
mais c'est même pas tant que ça.
37 ans et puis ouais, un palmarès compliqué en fin de carrière.
C'est ça, il y a des combattants à 37 ans qui sont encore vraiment redoutables. Hein. Exemple Gilbert Burns, mais là c'est vrai que...
Il a 37 ans.
Ouais.
Oh la vache. Ah ouais, oh le monstre.
Et voilà, ouais non, je suis d'accord, je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit un challenge sportivement intéressant. Maintenant, on connaît Cédric Doumbé, il est là pour faire de l'argent avant tout et essayer d'avoir un maximum de renommée. C'est vrai qu'aller chercher un KO sur un nom comme Anthony Pettis, à l'international, je pense que ça va faire parler lui encore plus qu'actuellement.
Je pense que c'est plus... le PFL, en tout cas, voit ça comme on sacrifie Anthony Pettis pour que Cédric Doumbé monte. Quoi.
Et après, pourquoi pas un combat contre le champion PFL PFL ou Bellator, je ne sais plus de la catégorie, Jason Jackson, où là vraiment on verrait un cran au-dessus ce que vaut Cédric Doumbé. On a fait le tour pour ces petites actus, rien de spécial.
On va venir au plat de résistance un petit peu plus tard, je pense.
Oui, aussi, voilà. Et bien, on va se faire une première petite pause. On s'écoute Zero Tree Adolescence de G. Cole et on revient juste après pour le grand quiz. À tout de suite.
Yeah. I grew up a fucking screw up. tie my shoe up. Wish they was newer. Damn, need something newer. In love with the baddest girl in the city. I wish I knew her. I wish I wasn't so shy. Wish I was a bit more fly. I wish that I could tell her how I really feel inside. That I'm the perfect nigga for her. But then maybe that's a lie. She like a certain type of nigga. And it's clear I'm not that guy. Ball player, star player. I'm just watching from the side. On the bench. Cause my lack of confidence won't let me fly. I ain't grow up with my father. I ain't thinking about that now. Fast forward 4 years or so from now. I'll probably cry when I realize what I missed. But as of now my eyes are dry. Cause I'm trying to stay alive. In a city where too many niggas die. Dreaming quiet, trying to dodge a suit and tie. Who am I? Hey, who am I? Yeah. Things change, rearrange, and so do I. It ain't always for the better, dog, I can't lie. I get high cause the lows can be so cold. I might bend a little bit, but I don't fold. One time for my mind and two for yours. I got food for your thoughts to soothe your soul. If you see my tears fall, just let me be. Move along, nothing to see. I always did shit the hard way. My niggas slanging in the hallway. Burnt CDs of trees like this was Broadway. Times Square, kept the dimes there in the locker. Some Reggie Miller with more brown hairs than Chewbacca. Whispers that he got it for the Lolo seller. Dime for a dub, them white boys ain't know no better. Besides, what's $20 to a nigga like that? He tell his pops he needs some lunch and he gon' get it right back. I peep gang, got home, snatched my mama keychain. Took a whip, the appeal, too ill to refrain. I hit the boulevard, pull up to my nigga front door. His mama at home, she still let him hit the blunt though. I told her hello, then sat with my nigga and laughed. And talk about how we gon' smash all the bitches in class. I complimented how I see him out here getting his cash. And just asked, what a nigga gotta do to get that? Put me on. He just laughed when he seen I was short. 17 years breathing, his demeanor said more. He told me, nigga, you know how you sound right now. You on my mans, I would think that you a clown right now. Listen, you everything I wanna be, that's why I fucks with you. So how you looking up to me when I look up to you? You bout to go get a degree, I'ma be stuck with two choices. Either graduate to wait or sell a number two. For what, $100 or two a week? Do you think that you would know what to do if you was me? I got four brothers, one mother that don't love us. If they ain't want us, why the fuck they never wore rubbers? I felt ashamed to have ever complained about my lack of gear and thought about how far we done came. From trailer park to a front yard with trees in the sky. Thank you, mama, dry your eyes, it ain't no reason to cry. You made a genius and I ain't gon' take it for granted. I ain't gon' settle for lesser. I ain't gon' take what they handed. Now I'm gon' take what they owe me and show you that I can fly. And show old girl what she missing, the illest nigga alive. Hey, who am I? Things change, rearrange, and so do I. Hey, who am I? It ain't always for the better, dog, I can't lie. I get high cause the lows can be so cold. I might bend a little bit, but I don't fold. One time for my mind and two for yours. I got food for your thoughts to soothe your soul. If you see my tears fall, just let me be. Move along, nothing to see. I never felt better.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. Nora est arrivée avec nous. Salut Nora.
Salut.
Tu vas bien ?
Un peu de retard, une fois n'est pas coutume. Je suis désolée.
Il n'y a pas de souci. On a donc fait déjà la première partie de l'émission qui était consacrée aux actualités des Français, notamment Oumar Sy et Cédric Doumbé. Et là, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, alors sans plus attendre. Le jingle. C'est la revanche entre Hugo et Lounis. La semaine dernière, Hugo avait gagné le quiz, mais il avait accepté de remettre son titre en jeu sur une dernière question qui avait été remportée par Lounis. Loonis est donc le tenant du titre.
Tout à fait.
Et comme s'il y a eu un beau combat, on a décidé de remettre la ceinture directement au jeu pour une belle revanche. J'ai un petit peu changé 2-3 questions. Voilà. J'ai gardé un peu le même principe des rounds. Mais voilà, j'ai changé de type de questions un petit peu. Bon, pas pour le premier round. Mais voilà, donc le concept est simple. Il va y avoir plusieurs rounds avec à chaque fois un type de question. Celui qui remporte un round remporte un point. Et c'est celui qui a le plus de points au final qui remporte le titre. Le premier round, ça va être le dernier mot. C'est une épreuve qu'on a déjà faite. C'est, je vais vous donner une catégorie. Et vous allez devoir lister chacun votre tour un combattant qui rentre dans cette catégorie. Mmh. C'est bon ?
Ouais, c'est clair ? Bon, c'est bon.
Ouais. Ok. Je vais vous laisser vous départager pour savoir qui va commencer avant de vous donner le thème. Shifumi. Shifumi. C'est Hugo qui a remporté le Shifumi. Tu peux choisir. Est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu laisses la main à Louis ?
Ça change le thème ou pas ?
Non, le thème sera le même.
Non. Ouais, je prends la main.
Tu prends la main ? Très bien. Le thème, c'est les vainqueurs de Main Event numérotés en 2023.
Oh, putain.
Ça va, c'est facile. Je te laisse donc.
C'est tellement précis.
Je te laisse commencer donc avec un premier nom. Fais marcher ta mémoire courte, Hugo, c'était l'année dernière.
Sean Strickland.
Sean Strickland, c'est une bonne réponse.
Léon Edwards.
Léon Edwards, c'est une bonne réponse deux fois.
Oh.
Mm. Ouais. Ah ouais. Ousmane et Covington.
Ah non, Ousmane, je suis d'accord avec toi, mais ouais. Juste. Waouh. Wow,
allez, fais marcher ta mémoire.
T'as dit quoi comme. T'as dit qui
Il a dit Edwards, Léon Edwards.
Ah oui, Léon Edwards. Oh, Kamaru Ousmane, hein. En 2023.
Eh ben, c'est une mauvaise réponse.
Quoi bah, Il non. a combattu qu'une fois en 2023
Les vainqueurs de Main Event numérotés.
Bah, il a pas gagné un Main Event numéroté non, en 2023.
Non. Mais il a combattu Léon Edwards, c'est tout, et après, il était plus en Main Event.
C'est vrai.
Bah oui.
Bah non.
C'était début 2023.
Mais c'était même début 2022 parce qu'il perd contre Edwards en août 2022.
Ah bah.
Oh là là.
My bad.
Oh, quel mauvais début de quiz d'Hugo là qui ne supporte pas la
pression.
Qui rate
son départ.
Ça fait le round 1 pour Loonis. C'était rapide. Du coup, petit tour quand même. Il y avait Jamal Hill qui remporte contre Glover Teixeira. John Jones contre Cyril Gane.
Sean O'Malley contre Aljamain Sterling.
Sean O'Malley contre Sterling. Adesanya contre Pereira. Sterling contre Cerrudo.
Pereira contre Adesanya.
Pereira contre Adesanya et contre Thierry Prochka.
Oui.
Marachev contre Volkanovski. Gaiji contre Poirier. Volkanovski contre Rodriguez. Et Nunes contre Juliana Peña. Mm. Voilà, donc c'était les combattants qui ont gagné un main event en 2023. Un main event numéroté, évidemment. Le round 2, je l'ai appelé le fanboy. Là, je vais avoir besoin de toi, Nora. Tu vas devoir lancer un petit chrono d'une minute trente.
Yes.
Et en fait, chacun, je vous ai sélectionné un combattant que vous appréciez.
Oh. Attends, je peux faire des prédictions. Yeri Prochka, Charles Oliveira.
C'est exactement ça.
Forcément ça.
Évidemment. Et du coup, vous allez avoir une minute trente pour répondre à un maximum de questions qui sont sur votre combattant préféré. Donc, Hugo, tu vas commencer vu que tu as perdu le premier round.
Ok.
Donc, Nora...
Et je dois noter le nombre de questions...
Tu notes le nombre de bonnes réponses.
Okay.
Donc, je vais bien préciser bonnes réponses, mauvaises réponses à chaque fois. Mm-hmm. Tu lances un chrono d'une minute trente, sachant qu'il y a 15 questions au total et que vous avez le droit de dire « je passe ». Et si vous avez faux ou quoi, je passe directement à la prochaine question. Si jamais j'ai fait le tour des questions avant la fin, je retourne sur les questions auxquelles vous n'avez pas répondu.
Ok.
Ou vous avez eu faux.
Ok.
Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ?
Oui.
Nora ouais.
Bah, je vais donner le.
Loonis, du coup, tu ne joues pas. Là, c'est Hugo qui fait son thème et après, toi, tu auras ton thème. Ouais, donc, c'est chacun son tour. Nora, tu donnes le top départ. Tu es prête à compter les points ?
Prête.
Allez.
Top départ.
À combien de combats sa série d'invisibilité s'étend-elle ?
20.
C'est une mauvaise réponse. Par quel moyen s'est-il défait de Dustin Poirier ?
Guillotine.
C'est une bonne réponse. Vrai ou faux, il a affronté Donald Cerrone ?
Vrai.
C'est une bonne réponse. Lors de sa fameuse série de victoires, quel est le seul adversaire à avoir tenu jusqu'à la décision ?
Tony Ferguson.
C'est une bonne réponse. Combien de soumissions comptabilise-t-il en professionnel ?
21.
C'est une bonne réponse. Qui lui a infligé sa première défaite en pro ?
Il est connu ?
Oui.
Clay Guida.
C'est une mauvaise réponse. Qui est l'unique combattant iranien à l'avoir affronté?
Tarokhan.
C'est une mauvaise réponse.
L'Arménien.
Oh, oh là là.
En quelle catégorie a-t-il fait ses débuts en pro?
Feather.
C'est une mauvaise réponse. Qui est le dernier combattant à l'avoir vaincu?
Tarokhan.
C'est une bonne réponse. Avant de commencer les sports de combat, quel sport rêvait-il de pratiquer?
Football.
C'est une bonne réponse. Qui est le seul autre combattant brésilien à avoir été champion UFC des poids légers?
José Aldo.
C'est une mauvaise réponse. Vrai ou faux, il n'a jamais perdu lorsqu'il a combattu au Brésil?
Vrai.
C'est une bonne réponse. Contre qui décroche-t-il la ceinture des poids légers?
Michael Chandler.
C'est une bonne réponse. À l'UFC, dans quelle ville a-t-il le plus combattu?
Sao Paulo.
C'est une mauvaise réponse.
Et c'était la dernière.
C'est fini.
C'était
la dernière. Je voulais aller vite pour repasser sur les questions. Non. Il y en avait où je.
Alors, ça fait combien de points pour Hugo?
Il est à 7 points.
7 points, c'est pas mal du tout.
Est-ce
sur
que
15.
Tu peux me reposer les questions? Parce qu'il y en a certaines où je pense que j'ai la réponse.
À combien de combats sa série d'invincibilité s'étend-elle?
J'ai envie de dire 15.
C'était 11.
C'était 11, ouais.
Qui lui a infligé sa première défaite en pro?
C'était pas. J'ai envie de dire Donald Cerrone.
C'était
mais...
Jim Miller.
C'était Jim Miller. Bah oui, logique.
Qui est l'unique combattant iranien à l'avoir affronté? C'était Benel Dariush.
Ah bah oui, logique.
Il a fait ses débuts en pro en welterweight.
Non.
Si. Oh. Le seul autre Brésilien à avoir été champion UFC
c'est
des
Rafael
poids légers.
Rafael dos Santos.
Effectivement.
Oh le nul.
La ville dans laquelle il a le plus combattu, c'était Las Vegas. Et enfin, la dernière question que j'ai pas eu le temps de te poser, c'était vrai ou faux, est-il hors top 15 du classement pound for pound actuellement?
Il est dedans, hein.
Il est dedans, tout à fait. Oh. C'était faux.
Oh, j'ai eu peur.
Mais ça fait 11 points. C'est au tour de Lounis sur Yiri Prochka. Lounis, es-tu prêt?
Oui, oui, oui.
Tu es prêt? Nora, je te laisse faire un petit 3-2-1 avant de lancer le chrono.
Ça marche. Pardon, ça marche. 3, 2, 1, top départ.
Combien de combats comptabilise-t-il à l'UFC?
5.
Bonne réponse. Lors de quel événement a-t-il combattu pour la dernière fois?
L'UFC 300.
C'est une bonne réponse. Avant de rejoindre l'UFC, dans quelle organisation combattait-il?
Rising.
C'est une bonne réponse. Par quel coup met-il KO Dominique Reyes?
Coup de coude retourné.
C'est une très bonne réponse.
Contador sur Chiquita.
Qui était son premier adversaire à l'UFC?
Volkanos Demir.
C'est une bonne réponse. Avec la République tchèque, quelle est la nationalité des combattants qu'il a le plus affronté?
Brésil.
C'est une bonne réponse. Combien de victoires comptabilise-t-il en pro?
28.
C'est une mauvaise réponse. Non. De quel personnage historique japonais?
Miyamoto Musashi.
C'est une bonne réponse. Combien de victoires par décision comptabilise-t-il?
2.
C'est une mauvaise réponse. Vrai ou faux, il est le premier champion tchèque à l'UFC?
Vrai.
C'est une bonne réponse. Lequel de ces combats a été élu combat de l'année 2022?
Glover Teixeira.
C'est une bonne réponse. Vrai ou faux, il a été impliqué dans le hooliganisme organisé en tant que
vrai.
Supporter du FC
Rojo
Cabrino? C'est une bonne réponse. Combien de fois a-t-il remporté de bonus de performance de la soirée?
À l'UFC?
Ouais.
3 fois.
C'est une mauvaise réponse.
Ah,
dans quel pays a-t-il
Attends,
fait...
Attends, c'était la dernière. Le compteur est... Voilà. Désolé, j'ai pas voulu vous interrompre.
Et combien de points pour Lounis?
10. Félicitations, Lounis.
Bien joué. Extrêmement bien joué. Voilà.
Non, mais j'avais 7.
Ah, d'accord,
oui,
je crois que
t'as
11.
Non, c'était Aurel qui a dit 11 tout à l'heure, ça m'a fatigué aussi.
Non.
Mais,
félicitations, Lounis.
Je reviens un petit peu sur les questions que t'as, où tu as eu faux. Combien de victoires comptabilise-t-il en pro? C'était 30. Tu avais dit 28.
Attends, 30 victoires.
30 victoires en pro.
Ah ouais, c'est encore plus un monstre que ce que je pensais.
Combien de victoires par décision comptabilise-t-il? Tu avais dit 2. C'était 1.
Encore plus drôle.
Combien de fois a-t-il remporté le bonus de performance de la soirée?
Deux.
C'était 4.
Oh,
et non,
putain,
3.
J'ai failli dire 4. Mais... Ouais.
Dans quel pays a-t-il fait ses débuts à l'UFC? C'était les Émirats Arabes Unis.
Ah, je l'avais pas. Ah bah si, enfin, j'aurais pu trouver, oui.
Vrai ou faux, il comptabilise une égalité dans son palmarès? C'était vrai.
Ouais.
Ouais,
je crois.
Tout
ouais.
à fait, ouais. Voilà, donc pour le round 2, c'est Lounis qui l'emporte. Ça fait 2 rounds à 0 pour Lounis.
Non, moi, c'était l'égalité, en fait, qui m'intéressait.
Avec ouais, les deux se sont envoyés un coup de coude retourné. Bon, voilà, l'arbitre est intervenu.
Double KO.
Non, je sais plus quand.
Je connais pas.
Ok, ouais, donc c'est pas si...
Il y a 2-0 pour Lounis. La particularité, c'est qu'il y a 3 rounds, mais le dernier round compte pour 2. Il y a un round pour départager au cas où.
Il a voilà. Tout prévu.
Exactement. Je voulais... Et ce round-là va être un peu plus long que les autres. Ce qui va se passer. Donc le round 3, je l'ai appelé le tout pour le tout. Il va y avoir 4 thèmes. 4 thèmes différents, et à chaque fois, il y a une question facile, une question moyenne, une question difficile. La question facile va rapporter 1 point, la moyenne 3 points, et la difficile 5 points. Vous allez avoir 5 chances chacun. Et en fait, à chaque fois, vous allez avoir le choix. Vous allez me dire, par exemple, je veux ce thème-là, question moyenne, ou ce thème-là, question facile.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Je dis 5, on peut peut-être arrondir, on verra peut-être si on peut aller plus loin en fonction du temps qui nous reste. Voilà, c'est pas immuable. Sachant que j'ai 2 questions par niveau de difficulté et par thème. Par exemple, un thème, question facile, j'ai 2 questions. Et vous n'avez pas le droit d'aller plusieurs fois d'affilée sur la même difficulté et un même thème.
D'accord.
Voilà. Okay. Est-ce que c'est clair ?
Oui.
Ouais.
Voilà. Hugo, je vais te laisser le choix et je vais déjà te dire les thèmes, sachant que c'est des thèmes un peu cryptés au début, mais une fois que j'aurai posé la première question, vous saurez précisément de quel thème il s'agit. Le premier thème, c'est « Il était une fois ». Le deuxième thème, c'est la French Touch. Le troisième thème, c'est le bagarreur final. Et le quatrième thème, c'est Arthur et les Minimoys. Quel thème choisis-tu ?
Si Arthur et les Minimoys, c'est genre les petits combattants, c'est exceptionnel.
Les flyweights,
c'est, ouais, genre,
100% c'est ça.
Non, je pense que c'est les combattants de petite taille. Genre Volkanovski, tu vois. Non, ce serait drôle. Je vais partir sur la French Touch.
La French Touch, c'était le plus facile à décrypter, c'était les Français à l'UFC.
Je vais demander question moyenne, s'il te plaît.
Question moyenne. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Qui est la première combattante française à avoir combattu au Japon ?
Tevi ?
C'est une bonne réponse.
C'est Tevi !
J'étais très content que tu aies choisi cette question-là. La réponse est Tevi Say. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Tevi Say, elle est coach au Parabellum Club de Nantes. Donc, c'est du coup la coach que Hugo et l'Unisson que j'avais l'année dernière. Donc, qui est vraiment une des pionnières voilà. Du MMA féminin Exactement. En France et du MMA général. Donc voilà, je voulais mettre une petite question comme ça pour
lui rendre honneur.
Exactement, tout à fait, ça fait 3 points pour Hugo. Est-ce que Nora, tu peux compter un petit peu les points parce que si je dois gérer les trucs et tout, je vais avoir du mal.
Donc, Hugo vient de marquer du coup. Donc,
voilà, donc là ça fait 3 points pour Hugo, qui a fait son premier essai. Lounis, je te rappelle les thèmes
Bagarreur final.
Le bagarreur final. Ouais. À ton avis, c'est quoi?
Je pense que c'est sur les vétérans, peut-être.
C'est sur The Ultimate Fighter.
Ouais, c'est ça.
The Ultimate Fighter. Okay.
Je connais l'amour d'Aurel pour les mauvaises traductions.
Donc vas-y, je te laisse le choix. Question facile, moyenne ou difficile ?
On va commencer par facile.
Question facile. Lors de la saison 30, donc celle avant McGregor Chandler, qui étaient les deux entraîneuses ?
Ah, Juliana Pena contre Amanda Nunes.
C'est une bonne réponse, ça fait 1 point pour Lounis. Hugo, je te laisse le choix de la prochaine question.
Redis-moi les thèmes.
Il était une fois, French Touch, les bagarres finales et Arthur et les Minimoys.
Je vais partir sur Arthur et les Minimoys. Question moyenne, s'il te plaît.
Question moyenne. Le thème, c'est évidemment les points mouches.
Vous avez okay. Juste.
Qui est le seul combattant néo-zélandais du top 15 actuel des points mouches masculins?
Ben c'est Steve Herceg.
C'est une mauvaise réponse.
Ah, il est australien.
Il est australien. Non hein si, il est en flyweight. Mais il est australien.
Il est australien. Ah,
bon. Et le néo-zélandais, c'était Kai Kara France.
Ok, oui, voilà. J'aurais pas deviné. Je pensais qu'il était français.
C'est une question
que
moyenne.
Kai Kara France.
Non, c'est vrai. Mais... mais voilà, mauvaise réponse pour Hugo qui ne marque pas de points. Lounis, à ton tour.
Alors, c'était French.
Il était une fois.
Oui.
French Touch, le bagarreur final et Arthur et les Minimoys.
French Touch.
French Touch. Quel niveau ?
Moyen.
Question moyenne.
Bah, j'ai déjà prise.
Oui, mais Lounis a le droit, vu que lui, il ne l'a pas prise.
Mais il connaît la réponse, du coup.
Non, parce que j'ai une autre question.
Pardon, excusez-moi.
J'ai deux questions de chaque.
Autant pour moi. Ah, oui.
Lors du premier UFC Paris, le 3 septembre 2022,
oui.
Qui était le troisième Français à combattre ?
Alors, Benoît Saint-Denis ?
C'est une mauvaise réponse. C'était William Gomis. Benoît Saint-Denis était le premier à l'époque.
Dommage.
Voilà, il y avait Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, William Gomis, Nassourdine Imavov et Cyril Gane pour terminer.
Okay.
C'est une mauvaise réponse donc. Ça fait toujours 3-1 pour Hugo. Vous avez eu deux questions chacun. Hugo.
Il était une fois moyen.
Il était une fois moyen. Il était une fois, le thème c'est les UFC post-2017. Donc c'est un peu à l'ancienne.
Post ou pré ?
Post. Non, pré, pardon.
Ah, pré,
oui, pardon. Okay, oui, excusez-moi.
Ah oui, je me
oui, je me suis trompé.
Vas-y, pré. Shoot. Oh, il a du mal.
En quelle année Anderson Silva devient-il champion des poids moyens de l'UFC ?
Je sais.
Après 2017, je vais dire... il devient champion des poids moyens de l'UFC. Je vais dire...
Il me faut une réponse.
Ah, 2015.
C'est une mauvaise réponse, il devient champion en 2006.
Ouais. Ah oui, oh bof.
Ah bah oui, forcément.
Oh là là.
Donc,
moi je regarde depuis Ngannou contre Cyril Gane, donc bon.
Donc mauvaise réponse pour Hugo. Les gars, va falloir marquer des points au bout d'un moment.
Bah, non, il y a combien là ?
Là on va chercher.
Il y a 3-1 pour Hugo toujours.
Ah. Bon, on peut rester comme ça. On arrête là ? Allez.
Lounis, à ton tour.
Il était une fois en difficile, tiens.
En difficile.
On va voir.
Citer deux combattants ayant fait leur début à l'UFC en 2011. Sachant que j'en ai noté deux.
Charles Oliveira.
Je vais regarder parce que j'en ai noté deux, mais il y en a sûrement d'autres. Donc je te laisse. J'allais pas tous les noter non plus. Donc je te laisse en chercher un deuxième parce qu'il faut que t'en donnes deux.
Je redirais un Charles Oliveira et en deuxième, en 2011, je dirais. À l'UFC.
Ouais, tout à fait. Alors, Charles Oliveira, c'est pas bon, il fait ses débuts en 2010.
2011.
Allez, vu qu'il n'y a pas beaucoup de points, si tu l'as, je te donne 2 points. Si
t'en as un deuxième, je pense. Hein.
Faut que je trouve. Junior Dos Santos.
Junior Dos Santos, je vais regarder également. Attention. Ce n'est pas ce que j'avais. Hop, évidemment, ce quiz est placé sous la surveillance d'un huissier de justice. Junior Dos Santos, hop, Wikipédia, on regarde.
Non, pas Wikipédia, Sherdog, Tapology.
Non.
Voilà, des sites...
Junior Dos Santos fait ses débuts en 2008.
Ah, dommage.
Moi, j'avais noté notamment José Aldo et Donald Cerrone.
Ah bon, bah comme ça.
Donc, ça ne fait pas de points pour Lounis. Toujours 3-1, vous avez eu 3 occasions chacun. Hugo, je te laisse choisir.
Allez, hop, French Touch, difficile.
French Touch, difficile. Contre qui Cheikh Kongo a réalisé ce qui est considéré comme le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC.
Mais il n'est pas connu du tout en plus. Non, il n'est pas connu.
Ouais.
Il n'est pas connu.
Ah, c'est difficile.
Je vais pas trouver. Oh, je le vois régulièrement en plus ce combat.
J'accepte uniquement le nom de famille si jamais.
Anderson ?
C'est une mauvaise réponse, c'était Pat Barry.
Oh, j'aurais pas trouvé.
Who the fuck is that guy?
Exactement.
Pat Barry, bah si, l'entraîneur de Rose Namajunas.
Ah ouais, peut-être.
Ouais. Ah. Qui se sont rencontrés quand Rose Namajunas était jeune.
Cela ne nous regarde pas. Lounis, c'est à ton tour.
Ok. Alors, bagarreur finale, on avait...
Il était une fois French Touch et Arthur et les Minimoys.
Arthur et les Minimoys en moyen.
Arthur et les Minimoys en moyen.
Il attaque.
En quelle année a été créée la catégorie poids mouche masculine à l'UFC ?
2016.
C'est une mauvaise réponse, c'était 2012. Avec évidemment le tournoi organisé avec notamment Demetrius Johnson, ouais, qui en sort vainqueur. Les gars, c'est
qu'est-ce
le malaise. On est censé être des experts. Il n'y a que 2 bonnes réponses qui ont été notées.
Qu'est-ce qui nous reste là ?
Déjà, c'est ta dernière chance. Il nous reste. Il était une fois en facile. Il reste une question. Il était une fois en moyen. Une en difficile.
En moyen ? Ah ouais, oui, non, ok, moyen. Vas-y, continue.
Pardon. Ah oui, mais tu as déjà choisi.
Il a déjà choisi, donc
non, tu peux pas. Il reste French Touch en facile. Il reste les bagarres finales Il reste les bagarres finales en facile, en moyen et en difficile.
Ouais,
ouais, les bagarres, ça n'a pas été beaucoup pris. Donc voilà. Et il reste Arthur et les Minimoys en facile. Il reste. Tu avais choisi en... Ouais, tu avais choisi en moyen. Donc, moyen aussi, les deux ont été pris, donc vous pouvez pas y retourner.
Donc, il reste French Touch... En facile, il te reste French Touch, Arthur et les Minimoys... Enfin, il reste tout.
en facile pour toi, ouais, t'as pas pris de question facile.
Je pense que je vais prendre French Touch en facile.
French Touch en facile. Quelle combattante française, ancienne kickboxeuse, a fait ses débuts à l'UFC Paris le 2 septembre 2023 ?
Manon Fiorot.
C'est une mauvaise réponse.
C'était Nora Cornol.
C'était Nora Cornol. Et voilà, trop sûr de lui.
Mais oui.
Le
mais
Nice, c'était pas si facile. Tu veux aller chercher le round et à souvenir ta victoire en remportant 3 rounds sur 3.
C'est ça.
Faut que t'ailles sur du moyen.
Bagarreur finale, moyen.
Mais il y a 3. C'est combien finale. Les questions
il y a 3, c'est 3 points pour le moyen.
Ok, d'accord.
Citer un des deux entraîneurs de la première saison de The Ultimate Fighter. Ils sont connus.
Chuck Liddell.
C'est une bonne réponse.
Ah, j'en étais sûr.
Lunis.
Difficile. Moyen. Ah
ouais, moyen. Ouais,
bah,
moyen.
Il va te rappeler de la première saison de Ultimate.
C'était Chuck Liddell contre Tito Ortiz.
Ouais. Chuck Liddell. Non, Randy Couture.
Ah,
non.
Mais je suis trop nul.
Ouais.
Non, mais je mérite pas ce. Je mérite pas cette ceinture.
Ah, yes. Ouais. Voilà. Victoire large de Lunis qui a été impériale. Voilà, que ce soit.
Titre mise en jeu.
T'avais demandé de la combativité, Aurel, je t'en ai donné.
Ça fait des victoires de suite pour Lounis. T'as eu ta revanche.
Non, mais,
déjà.
Non, mais petite. On remet celui qui gagne, ça y est, tout gagné.
Moi, ça me paraît.
Sur
paraît
un compliqué. Round
Non, moi, je le prends pas.
Ça me paraît compliqué.
Il vient de te mettre une raclée.
C'est pas du beau jeu. Il vient de te mettre une raclée.
Moi, je suis pas un fou furieux, je suis. Voilà.
Il y avait 2-1 au premier. 3-1.
Non, non, t'avais gagné, mais genre vraiment au dernier moment.
Ah bon je ne vais pas.
Là, franchement, t'as perdu les 3 rounds.
C'est pas grave.
Voilà. Mais tu
non, mais je vois que le Nice n'est pas très joueur. Mais c'est pas...
bah écoute, je solidifie ma victoire.
Et autre argument, on a un combat de boxe à aborder dans la fin de l'émission.
Oui, c'est vrai, quelle heure est-il.
Faut qu'on enchaîne. Donc félicitations, Lounis.
Voilà.
Là, il a montré qui était le patron.
Donc, tu nous as fait une. Comment elle s'appelle contre Valentina Shevchenko.
Alexa Grasso.
Ouais, tout à fait.
Victoire serrée au premier et victoire large au deuxième.
Tout à fait. Donc voilà pour le quiz. On va faire une deuxième pause musicale, on s'écoute Murder on the Dance Floor.
Murder on the Dance Floor de Nora, est-ce que tu peux me donner le nom?
Michael Jackson. Plus de la...
non. Exact, oui, ouais, non pas du tout.
Moi je suis encore dans le quiz.
c'est qui?
Sophie Elise Baxter.
Voilà, donc on s'écoute Murder on the Dance Floor et on revient tout de suite pour parler de boxe anglaise. À tout de suite. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. We'll be right back. On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a fait la première partie sur les actus des Français, on a fait la deuxième partie sur le quiz remporté haut la main par Lounis. Et on va parler un petit peu, une fois n'est pas coutume, de boxe anglaise, combat au sommet chez les poids lourds qui a eu lieu entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Tyson Fury qui, pour la première fois de sa carrière, s'incline sur décision partagée face à l'Ukrainien. Lounis, on en a un petit peu parlé en off. Pour toi, la performance d'Usyk, c'est une démonstration.
Il a fait le combat de sa vie, je pense. Ça ne veut pas dire que Usyk ne fournira plus jamais à l'avenir de performances très bonnes, mais je pense que c'est probablement le Usyk à son apogée, c'est celui qu'on a vu ce soir-là, clairement. Que ce soit sa manière de gérer la distance, les combinaisons, les esquives. Il a justement Alexandre Usyk qui est surnommé le chat, et c'est vraiment prégnant dans son style de combat. Il a une manière justement d'esquiver et d'échapper quasiment aux assauts de son adversaire et de revenir aussitôt. Il a une vivacité qui est très très dingue. Il réfléchit beaucoup, ça se voit. Ce qu'on appelle le ring ou le fight IQ. Et il a vraiment fait un combat d'anthologie, et il est avec 10 kilos de moins et une tête de moins que Tyson Fury, qui est un géant, il a quand même réussi à le mettre knockdown.
Ah mais parlons-en ça justement.
Oui oui.
Bah, le fait qu'il ait réussi à le mettre KO, knockdown, alors que.
On y vient. En fait, c'est vrai que la décision peut porter à confusion parce que c'était décision partagée, et c'est vrai que en fait Fury, même quand il a une difficulté, il arrive à aller chercher des rounds scoring, au point. Il arrive à aller chercher des rounds, mais du coup, c'est vrai que l'impression visuelle, elle était clairement en faveur d'Usyk tout le long du combat. Ouais. On avait vraiment l'impression qu'il était un petit cran au-dessus, même si au milieu du combat, Usyk a commencé à accélérer, à dicter un petit peu plus son rythme. Mais Usyk a su faire les ajustements, et il y a la bascule du combat, comme tu disais, où c'est vraiment Usyk qui vient sonner salement Tyson Fury, sur un bel enchaînement.
Ouais.
Est-ce que Hugo, toi, tu pensais que ça allait être la fin par KO là, Fury.
En fait, moi, je regarde quasiment pas de boxe anglaise, donc moi, quand je l'ai vu trébucher, je me suis dit, ah bah ça y est, le combat il est fini, comme en MMA où t'as un KO, c'est terminé, tu vois.
Ouais, ça va très vite.
Et là, je me suis dit, ah bah ça y est, il est champion. Et en fait, il le relève et je fais, ah putain, c'est vrai, on est en boxe anglaise et il y a trois KO. Mais voilà, et en fait, règle idiote d'ailleurs. Enfin bref, et au final, je me suis dit, je regardais pas le temps à ce moment-là et je me suis dit, ah bah il va le finir dans ce round-là du coup. Et en fait, au final, Tyson Fury a réussi à survivre jusque-là. Mais bah non, je crois qu'il a été relevé et qu'il a sonné direct.
C'est ça, il y a eu un arrêt de l'arbitre et du coup ça correspondait un peu avec la fin du round. Mmh. Ouais. Donc réussite.
Si le round avait duré une minute de plus, Usyk l'aurait probablement terminé. Mais
je pense, ouais.
Terminé, c'était... je sais pas. Parce
terminé,
que
mais il l'aurait,
il l'aurait
vraiment
couché.
Mis mal.
Ouais, il l'aurait couché, c'est sûr. Et on l'a vu, Fury.
L'état où il était.
Fury a eu du mal un petit peu dans la reprise du round d'après. Ouais. Il a réussi à un petit peu temporiser, tant bien que mal, le temps de laisser passer l'orage, on va dire. Mais c'est là qu'on a eu vraiment un Fury en difficulté.
Bah, à part ça, le combat, c'était du grand Tyson Fury. Hein.
Fury qui a assuré.
Il n'était pas diminué, il était en pleine forme, en pleine position de ses moyens. Usyk a juste été meilleur.
C'est ça.
On a eu vraiment une maîtrise tactique et technique globale d'Usyk. Et c'est vrai qu'en début de combat, il allait surtout sur les frappes au corps. Oui. Voilà, il faisait beaucoup de feintes, notamment de petites jabs comme ça. Ouais. Mais les vrais coups qu'il envoyait, qu'il connectait, c'était au corps. Et ensuite, Fury, du coup, a un petit peu ajusté sa stratégie. Et c'est là que, pareil, Usyk, quand il a commencé à perdre 2-3 rounds d'affilée en milieu de combat, pareil, de son côté, il a fait des ajustements. Et ensuite, un petit peu avec l'élan du presque knockdown, du fait qu'il ait sonné un petit peu Fury, il a un petit peu lâché les chevaux, il s'est dit ok, je peux aller le chercher. Voilà, il a commencé à un petit peu moins craindre les assauts de Fury, du Britannique, c'est ça, il est britannique,
oui, Tyson Fury. Ouais. Oui.
Donc c'est vrai que ouais, les fins, les derniers rounds notamment étaient vraiment vraiment très 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 cool à regarder. Il y a une revanche qui va se faire probablement.
Revanche immédiate.
Ouais, revanche qui va arriver très très vite. À votre avis, là comme ça, au vu du combat qu'on a eu, de la revanche potentielle, à quoi on peut s'attendre?
C'est une bonne question.
Je saurais pas, je serais incapable de vous prédire le combat, mais il y a un truc par contre que personne ne pourra jamais enlever à Tyson Fury. Quand il est au plus bas et que personne ne le voit remonter la pente, il sort tout le temps une performance absolument hallucinante. Bon, sans rentrer dans les détails, mais on sait qu'il a vécu une dépression terrible à un moment donné dans sa vie. Il était alcoolique et il a quitté le circuit professionnel pendant plusieurs années, donc de boxe, avant de revenir, d'affronter Deontay Wilder, qui était le champion du monde à ce moment-là, et de mettre KO Deontay Wilder. Je rappelle que Deontay Wilder était probablement celui qui, en termes de frappe, était probablement le combattant qui frappait le plus fort sur Terre avec Francis Ngannou. Mais bref, Tyson Fury, quand il est au plus bas, généralement, il se révèle en quelque sorte à lui-même et il arrive à performer à un point où on ne l'attend pas du tout. Donc peut-être qu'il récupérera sa couronne hein, contre Usyk, mais en l'état, Usyk, j'ai vraiment le sentiment qu'il est à son apogée. Ça va être très compliqué de le battre.
Bah, et puis il y a un autre facteur à prendre en compte qui est officieux, entre guillemets, c'est qu'on a observé souvent que les champions dans les sports de combat, surtout en MMA, mais j'ai pas une assez bonne connaissance de la boxe pour dire ça en boxe, mais en tout cas en MMA ça a souvent été le cas, que les combattants, quand ils deviennent champions, ont une sorte de boost, un petit peu de confiance en eux.
Évidemment.
Et qui booste un peu aussi leur performance.
Mais c'est ce qu'on dit dans tous les sports, la victoire est le meilleur des entraîneurs.
Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais historique tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information-là, mais Usyk est le premier champion incontesté en boxe depuis Lennox Lewis, je crois, en 2000.
Oui. Il a les quatre ceintures des quatre plus grosses catégories de boxe.
C'est historique parce que c'est arrivé très peu de fois.
Moi, j'avoue, pour la revanche, techniquement et tactiquement, forcément, je donne encore l'avantage d'Usyk parce que ce qu'il nous a montré samedi dernier, c'était vraiment bluffant. Maintenant, il y a deux choses qui vont rentrer en compte et une qui vont aller dans son avantage et l'autre non. Celle qui va dans son avantage, qui sont donc moins, on va dire, sur le combat, mais plus d'un point de vue mental, pour moi, ce qui va rentrer en son avantage, c'est quand un combattant est invaincu, il a une espèce d'aura d'invincibilité. Et c'est vrai que maintenant que Fury, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
oui,
mais dans le sens en mode, pour aller le chercher, pour aller le battre, faut...
Parce qu'il y a tous ceux-là qui sont passés avant, ça, et qui n'ont pas réussi.
Il faut s'accrocher, et c'est le genre de champion, en fait, même quand il est en difficulté, ils arrivent toujours à aller chercher le petit truc pour aller faire la différence. Fury a failli le faire, hein, décision partagée, on le rappelle, donc ça s'est joué à pas grand-chose. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y a la première défaite, il y a ce côté mental, on se dit, ok, il est battable, on peut le prendre. Ouais, donc ça, exactement, déjà, je trouve ça... Oui.
Après, Tyson Fury, il a quand même eu un nul face à Deontay Wilder.
Oui, c'est vrai.
Une égalité.
C'est vrai, mais bon.
Donc ça enlève un petit peu...
Oui, c'est ça. Mais derrière, il le met KO deux fois.
Ouais,
mais
c'est ça. Bon,
ouais. Et puis je pense qu'il y a quand même cette... Tyson Fury, il avait quand même cette aura de... vous me dites si je me trompe, hein. Mais il avait cette aura de... il a fait un truc en boxe qu'on n'avait pas vu depuis longtemps
c'est
avant
vrai.
Lui.
Ouais,
où il est arrivé et il a détrôné Vladimir Klitschko au début de sa carrière. Ouais. Enfin, au début de sa carrière. Il a détrôné Vladimir Klitschko en tant que champion. Et Vladimir Klitschko qui semblait imbattable à ce moment-là.
En fait,
il y a eu plusieurs trucs comme ça qui ont fait que Tyson Fury, il avait vraiment cette aura de... il est différent.
Mais il est différent et je conclurai là-dessus avant que tu reprennes la parole et que tu termines l'émission en règle. Mais
t'inquiète pas.
Tyson Fury, en fait, justement, il y a quelque chose d'assez poétique avec lui parce qu'il devrait même pas être un boxeur. En fait, il a un physique, une physionomie, une manière de boxer, ça devrait pas marcher. Et pourtant,
ça marche.
C'est très
pourtant,
plus orthodoxe.
Non seulement ça marche, mais c'est un des meilleurs boxeurs, en tout cas du 21e siècle.
Ouais.
Quoi.
Tout à fait. Oui. Et du coup, vous avez un petit peu parlé dessus. C'est l'autre aspect un peu plus mental qui, pour moi, va plus jouer en faveur de Fury. Ou en tout cas, c'est là où je l'attends. C'est le côté de l'orgueil du champion. Comment est-ce qu'il va rebondir? Est-ce que ça va le booster, justement, enfin, d'être un peu challengé? peut-être qu'il avait un petit peu de facilité, je sais pas, qu'il avait du mal à retrouver un petit peu d'autres objectifs, on va dire.
Son dernier combat avant Usyk, si je me rappelle bien, il s'est fait un peu malaxé par un mec, qui venait du MMA, qui avait jamais fait de boxe professionnelle de sa vie avant. Oui. Bon.
Mais du coup, c'est là où on va voir un petit peu vraiment de quel bois. Enfin, non, je vais pas dire ça parce qu'il en a prouvé, il a prouvé bien avant. Mais on va voir s'il y a un petit peu cette capacité à 37 ans de vraiment rebondir.
Jusqu'où ça va.
Différence. Face à un adversaire qui, lui, pour le coup, est pareil, en pleine ascension et qui semble également invincible. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ça fait du bien de revoir un vrai beau combat. De boxe anglaise, parce que c'est vrai que ces dernières années.
Jake Paul contre Mike Tyson arrive continuer.
Non, il y a Gervonta Davis contre David Haney en juin. Voilà. Ça, c'est très, très cool.
En poids léger.
Poids léger, je crois même.
Donc c'est vrai que ça permet de nous qui suivons plutôt le MMA que la boxe. C'est vrai que moi, ça m'a donné un petit peu plus d'élan pour revoir d'autres matchs de boxe.
Mais faut pas trop se baser sur ce genre de combat parce que c'est vraiment le top du top, la crème de la crème.
Moi, je n'ai pas retenu le nom des boxeurs, mais les deux autres combats qui ont précédé Tyson Fury contre lui, qui étaient vraiment très très chouettes.
Il y avait Ryan Garcia dedans, parce qu'il y a Ryan Garcia contre Devin Haney.
Vraiment un bon niveau technique, c'était divertissement.
J'ai pas vu.
Voilà, donc tout ça pour dire, on a un petit peu hâte de voir cette revanche entre les deux monstres de la boxe anglaise. C'est la fin de cette émission, on a fait le tour. Merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous ou nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter, @lebagarreclub. L'émission est disponible en podcast sur le site prune.net, Hugo. Non, mais maintenant que tu es...
Bientôt. Oui, ça y est.
Il faut savoir, Hugo est étudiant et c'est vrai que fin d'année pour les étudiants, on sait que c'est un peu compliqué.
Surtout pour les étudiants qui...
Qui font tout au dernier moment.
Voilà, mais c'est ma faute, mais ces dernières semaines, ça a été atroce. Mais c'est enfin fini et je vais pouvoir me remettre à l'édition et à la publication des podcasts très très bientôt.
Voilà, merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.